بنت الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا انتي عيني حبك من قلبي يا انتي عيني بنت الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا انتي عيني
Bonjour les auditeurs de Radio Galère. Comme chaque semaine, on se retrouve pour aller passer une heure en Palestine. Et cette semaine, c'est le collectif Marseille-Gaza-Palestine qui est avec vous. Voilà, une bonne nouvelle pour commencer. Devinez qui est invité à aller faire une conférence sur l'antisémitisme dans le pays des génocidaires. Eh bien, c'est M. Bardella et Mme Marion Maréchal-Le Pen qui y seront à la fin du mois, et nul doute que les héritiers d'un parti fondé par un ancien Waffen-SS seront bien placés pour parler de la lutte contre l'antisémitisme. Et on laisse cette nouvelle de côté, et on arrive tout de suite aux prochaines activités que nous allons avoir à Marseille. Alors c'est d'abord une initiative qui va avoir lieu samedi après-midi à 15h30, une initiative de solidarité Liban. L'invitation de Salah Hamouri et de Souha Béchara, deux résistants palestiniens qui ont passé de longues années dans les prisons israéliennes. L'un est palestinien, franco-palestinien, ou franco tout court, puisqu'il n'a pas de nationalité palestinienne. Et Souha est libanaise. Ils seront samedi, donc. Et pour y assister, eh bien, il faut vous inscrire. Alors, soyez attentifs. C'est un mail à envoyer à Solidarité Liban Marseille, en un seul mot, Solidarité Liban Marseille, @proton.me. Vous aurez après-demain, vendredi, l'information du lieu où se tiendra cette conférence. Et puis, quand vous sortirez de la conférence, dont les bénéfices iront au Secours populaire libanais, eh bien, à partir de 19h30, vous venez au Gyptis, le cinéma de la Belle de Mai, où sera projeté le film récemment oscarisé en tant que meilleur documentaire, No Other Land. La séance sera suivie d'un débat avec la salle et juste pour illustrer l'urgente nécessité de voir ce film. Et bientôt ce matin, un groupe de colons masqués ont attaqué le village de Al-Rabi Al-Nabi dans la zone de Massafariata sur laquelle porte ce film, agressant les Palestiniens avec du gaz poivré et détruisant les enclos à moutons. Alors, venez voir le film. Et pour les personnes qui jeûnent, eh bien, des dates et des boissons seront prévues pour la rupture du jeûne. Le 21 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine, à Mon Café, à La Plaine, à partir de 18h, c'est un repas palestinien suivi d'un concert à 20h. Et là encore, les bénéfices de la soirée iront à des familles de Gaza. Après ces brèves, après cette actualité, parler d'un livre avec l'auteur. Myriam Laribi, journaliste freelance, collabore régulièrement avec le monde diplomatique et Orient 21. Elle vient de publier aux éditions Critique un ouvrage de plus de 300 pages, préfacé par Alain Grech et intitulé « Si j'y, l'humanité ». Elle a présenté son travail à la librairie Transit il y a quelques jours, une compilation mois par mois de l'horreur vécue par le peuple palestinien de Gaza, une compilation qui dénonce aussi le rôle des médias occidentaux dans la diffusion d'un récit partial et tronqué qui alimente la déshumanisation de ce peuple et l'indifférence face à son sort. Un récit anticolonialiste, lucide et courageux, qui appelle à choisir son camp, celui de l'humanité et du droit international. Les risques pris par Myriam pour son avenir professionnel sont à rapprocher de l'attitude respectable de Jean-Michel Apathy, deux journalistes qui honorent le métier, refusant la servilité des journalistes de cour. Plusieurs autres ouvrages remarquables à vous conseiller avant d'écouter Myriam. Comme des marque-pages glissés dans nos mémoires. Un ouvrage de la plasticienne Muriel Modre, un très joli livre qui vient de paraître aux éditions La Courte Échelle et que vous trouverez dans les librairies marseillaises, en particulier à la librairie Transit, où elle a présenté hier soir cet ouvrage. Deux autres petits livres, Gaza devant l'histoire de Enzo Traverso, chez les éditeurs Lux. Et puis, Je vous écris de Gaza sous les bombes, de Hossam El Madoum, aux éditions Place Publique. Avec ces trois derniers ouvrages et avec celui de Mariam Larribi, eh bien, vous apprendrez beaucoup de choses sur la situation en Palestine et sur ce qu'a vécu la bande de Gaza en particulier. Voilà, on va écouter maintenant, pendant une bonne dizaine de minutes, Mariam Larribi qui présentait son livre la semaine dernière à la librairie Transit.
Quand l'éditeur m'a proposé d'écrire un livre sur Gaza, je me suis demandé ce que je pouvais apporter de plus, moi, à ce qui a déjà été écrit sur la Palestine par de nombreux auteurs. Et je me suis dit que le mieux serait de faire un journal d'observation, journal de bord d'observation, parce que depuis le 7 octobre 2023, le monde s'est arrêté de tourner pour moi. Avant, je travaillais plus sur des sujets en lien avec l'Amérique latine et d'autres affaires. Bien sûr, j'ai toujours suivi ce qui se passait en Palestine, mais là, donc, effectivement, j'ai compris que ça allait être extrêmement grave et je n'ai plus pu me concentrer sur autre chose que ce qui se passait à Gaza. Et je me suis mise... j'étais indépendante, j'écrivais comme ça, par-ci par-là pour des journaux, des articles de fond, d'analyse, etc. Mais le suivi quotidien, je le faisais sur Twitter, sur X. Et ce qui fait que quand l'éditeur m'a proposé d'écrire ce livre, je me suis dit, il suffira juste de remonter le fil de mes tweets pour retrouver les événements qui m'ont le plus marqué, qui m'ont paru les plus importants à publier, les analyses aussi qui m'ont paru les plus importantes à publier. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai remonté l'historique de mon fil Twitter depuis 7 octobre 2023. Et je raconte donc cette année épouvantable entre le 7 octobre 2023 et 7 octobre 2024. Ça continue un petit peu après parce qu'on a imprimé autour du 16-17 janvier. Du coup, à la fin du livre, le cessez-le-feu est annoncé. L'annonce du cessez-le-feu, on venait de l'avoir. Le jour où le livre partait à l'impression, du coup, j'ai rajouté une petite ligne là-dessus. Et la veille, quoi. Mais sinon, le gros du livre, c'est octobre 23, octobre 24. Et comme disait la camarade, les chapitres, c'est octobre, novembre, décembre, janvier, etc. Et c'est chronologico-thématique. Parce qu'au départ, j'étais vraiment partie sur l'idée d'un journal, d'écrire au jour le jour tout ce qui s'était passé. Mais rapidement, ça devient illisible parce que les horreurs se répétaient, c'était tous les jours plusieurs massacres. Et à la fin, ça devient illisible, malheureusement. Et comme m'a dit mon éditeur, tu n'écris pas un dossier pour la Cour internationale de justice. Tu écris un livre. Donc j'ai abandonné l'idée du jour le jour, vraiment, cet octobre, 8 octobre. Et j'ai gardé les mois. Et c'est ça. Et c'est donc chronologico-thématique. Par exemple... en octobre, on nous a répété ad nauseam, Israël a le droit de se défendre, Israël a le droit de se défendre. C'était vraiment ça le mantra de tous les dirigeants occidentaux et des médias occidentaux, mainstream. Et donc, voilà, je profite de ça pour parler de est-ce que Israël a le droit de se défendre, c'est basé sur quoi cette allégation, qu'est-ce que ça veut dire se défendre, etc. Ou le Hamas utilise les civils palestiniens comme boucliers humains, qu'est-ce que ça implique, etc. Donc voilà, donc on est parti sur... sur un journal d'observation. Et je l'ai écrit, j'ai décidé de l'écrire à la première personne parce que j'ai voulu raconter ces histoires de mes passages à l'Élysée et au Quai d'Orsay parce qu'en fait, rapidement, entre octobre et décembre, j'étais au plus mal, comme beaucoup d'entre nous, par rapport à ce qui se passait en Palestine. Et je ne savais pas quoi faire, je me sentais inutile et ça suffisait pas, tout ce que je pouvais faire ne paraissait pas suffisant, même si mon compte Twitter commençait à prendre beaucoup d'abonnés, à avoir de l'impact et tout, je me sentais inutile et puis j'avais envie d'aller demander aux autorités françaises, pays dans lequel je vis, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation. Et puis il y a eu un événement moi, qui m'a déchiré le cœur, comme vous direz le début, vous saurez. En particulier, alors pourquoi celui-là est plus qu'un autre ? C'était pas plus qu'un autre, mais ça m'a... Bon, c'était... pour ceux qui savent, je vais le dire rapidement, parce que c'est trop et qu'on demande d'en parler, c'est horrible. C'était des bébés abandonnés dans un hôpital évacué. Des bébés d'hôpital à Nasr. Et donc ça a failli vraiment me rendre malade au sens propre, quoi. Et comme tout le monde, j'étais très très mal. Et j'ai,
Il faudrait juste dire ce que disaient les Israéliens, en fait, enfin, ou le gouvernement israélien, c'est que dans cet hôpital, c'était plein de terroristes. Et que donc, ça justifiait complètement qu'ils bombardent un hôpital, quoi. C'était leur justification.
Oui, c'est toujours.
Ça l'est toujours.
Classique. Mm. C'est ennuyeux tellement c'est classique. C'est toujours la même chose, sans preuve, dire toujours que c'est utilisé comme base terroriste. Oui. Et puis à partir de là, en fait, tous ceux qui tuent, ils disent, quand ça se fait pas trop, ils disent ah bah c'était des terroristes, voilà, sans aucune preuve, comme d'habitude. Et
donc les bébés.
Donc voilà, cette histoire me bouleverse et je vois sur le compte d'un collègue journaliste, un confrère journaliste palestino-états-unien qui s'appelle Saïd Al-Eqat, qu'il est allé parler des bébés de l'hôpital Al-Nasr au porte-parole de la Maison Blanche à Washington et qui lui pose la question sur ce très probable crime de guerre, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné des bébés dont ils savaient qu'ils étaient là branchés à des respirateurs, etc. Ils les ont laissés mourir, ils sont morts sur leur lit d'hôpital. Et donc je me dis, je vais faire la même chose. Je vais essayer d'aller moi aussi à l'Élysée et poser des questions. Et j'avais une carte de presse, donc je ne voyais pas pourquoi moi j'aurais pas le droit d'y aller, même si j'appartenais pas à un grand média, etc. Et effectivement, j'ai cherché, ça m'a pris 2 jours de comprendre qui joindre et tout à l'Élysée. Effectivement, du moment que vous avez une carte de presse, vous avez accès au point presse hebdomadaire du porte-parole de l'Élysée, du gouvernement. À l'Élysée. Et donc je me suis rendue très rapidement. Et au début, le porte-parole c'était Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé. Et après ça a été Prisca Thévenot et maintenant c'est une autre qui s'appelle Sophie Prince. Et les deux premières conférences de presse auxquelles j'ai assisté c'était avec Olivier Véran. Donc je lui raconte cette histoire de l'hôpital Al-Nasr. Et juste pour revenir, quand je vois le collègue palestino-états-unien demander au porte-parole de la Maison Blanche qu'est-ce qu'il en pense de ça, est-ce que c'est un crime de guerre ou pas. Le porte-parole de la Maison Blanche, bien sûr, grand hypocrite, puisque c'est eux qui livrent les armes à Israël, et qui, sans eux, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé, mais prend soin quand même de dire c'est horrible pour ces bébés, c'est horrible pour leurs parents, et c'est horrible pour l'humanité tout entière, ce qui se passe à Gaza est horrible. Bon, à la fin, bien sûr, il finit par dire c'est de la faute du Hamas. Bon. Mais il prend soin. Moi, je posais la même question, je prends une minute pour raconter à Olivier Véran ce qui s'est passé avec ces bébés, et à la fin, il me regarde et il me fait « J'ai entendu votre question » et il sourit. Voilà, c'est tout. Il n'a rien dit sur les bébés. Rien, rien. Pourtant, il est médecin. Il n'a rien dit. Il m'a dit « Non, la France se comporte très bien. Voilà, porte-parole, quoi. Il ne sort pas de ce qu'on lui a dit de dire sur la situation. » Donc oui, c'était extrêmement choquant pour moi. J'ai mis 2 heures à me calmer. Marcher dans la rue et tout, surtout qu'aucune solidarité des confrères présents, rien du tout, personne n'est venu me parler ou me dire quoi que ce soit. Donc bon, je suis allée et j'ai décidé. Après, j'ai revu la séquence parce que je n'avais pas vu sur le moment qu'il m'avait fait des guillemets à question, alors que je lui dis est-ce que vous considérez que c'est un crime de guerre, est-ce que vous allez demander une enquête internationale et tout. Il me dit question. Et donc ça m'a sidérant et j'ai posté ça sur Twitter, ça a fait 500 000 vues la vidéo, parce que c'est filmé, la conférence de presse est filmée, elle a fait 500 000 vues, et à partir de là les gens disaient c'est bien d'être allé, bon sa réponse est naze, mais c'est bien d'être allé, c'est important d'aller questionner les porte-parole là-dessus et tout. Et là je me suis dit bah je vais faire ça maintenant, puisque de toute façon je suis au chômage pratiquement, j'étais pigiste, j'avais pas énormément, disons, de travail en tant que journaliste pour les médias. J'écrivais par-ci par-là, mais il me restait du temps, et du temps que je passais sur les réseaux sociaux à pleurer et à souffrir de ce que. Donc je voulais être utile. Et j'ai décidé à partir de là d'aller chaque semaine donc, à l'Élysée, et après, quelques semaines après, au Quai d'Orsay aussi, au ministère des Affaires étrangères, pour questionner les porte-paroles sur la situation à Gaza. À l'Élysée, ouais, comme vous avez dit, personne ne posait de questions sur Gaza, j'étais la seule. Et la différence, disons, avec les autres, en tout cas quand je suis arrivée, les gens, il y a 2 micros à disposition de chaque côté de la salle à l'Élysée, et les journalistes vont vers le micro, posent leurs questions, et parfois vont s'asseoir quand le porte-parole répond. Ils ne relancent pas, ils ne cherchent pas plus que la réponse déjà préparée, et lui qu'il avait. Moi, j'ai pas fait ça, évidemment. Moi, j'ai un micro à disposition, je le lâche pas tant que t'as pas répondu à ma question. je pense que je, voilà, c'est comme ça que je vois mon travail. Et donc quand je pose la question, il me répond des éléments de langage qui ne conviennent pas, je relance. Du coup, ça dure un peu plus longtemps. Et c'est voilà. Et assez rapidement, on est devenu un peu des troubles fêtes dans cette ambiance d'entre-soi à l'Élysée, avec des journalistes qui sont un peu... pas tous, évidemment, je ne veux pas du tout jeter l'anathème, disons, sur toute la profession, mais pas du tout. Mais il y a quand même un phénomène de journalisme de cour, de gens qui connaissent les conseillers, des ministres, se tutoient, ils doivent boire des coups ensemble, j'ai vu, ils se tutoient, ils font des blagues. C'est pas des... comment dire. Pour moi, le rôle d'un journaliste, c'est d'être un poil à gratter, d'aller questionner le pouvoir et d'aller l'emmerder, en fait, pour parler concernant. Et là, non, c'était pas trop le cas, disons. Et donc, je suis arrivée, puis après, il y a un autre collègue journaliste du Média, Jamie Sally, qui est venu lui aussi, qui posait plus des questions sur des questions nationales, lui. Et pareil, alors lui, il est très à l'aise à l'oral, et il est titillé beaucoup, il relançait. Du coup, on est devenu un problème à l'Élysée. Assez rapidement, notre micro-groupe, parce qu'en fait, on nous a dit, oh, vous venez en groupe. En fait, non, vous venez pas en groupe, chacun venait pour ses histoires. Moi, je venais pour Gaza, lui, je venais pour d'autres choses, pour le Média à l'époque. Et ils ont considéré qu'on était un groupe. Et là, on a eu de l'hostilité de la part de collègues confrères. Enfin, je ne veux pas dire confrères, parce qu'il y en a une qui m'a dit oh, « On n'est pas des confrères, on ne fait pas le même métier. » Elle voulait défendre la ministre. Il y en a un qui nous a dit « Oui, la ministre est hyper stressée quand vous venez. Vous rendez compte, rien que votre simple présence. » Je dis « Mais qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Tu es journaliste ou tu es son garde du corps ?» Voilà, donc voilà, vous lirez ça, bah, je ne veux pas spoiler, donc si vous lisez le livre, vous lirez ces histoires dans le livre, elles sont racontées en détail, jusqu'à ce qu'il y ait un gros clash aussi, bon, bref, c'était ça. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'écrire à la première personne, mais pas seulement, parce que je pense que l'écrire à la première personne, dans vos propos, je raconte ma vie, un peu, mon enfant, d'où je viens. Moi, je viens d'Algérie, j'ai grandi en Algérie, et en Algérie, on a été éduqués avec la Palestine au cœur. Moi, dans ma propre éducation, la manière dont mon père m'a appris la géographie ou des choses comme ça, c'était la Palestine était là, en fait, tout le temps, depuis qu'on était tout petit. Et je pense que c'est un point de vue des gens du Sud qui est diamétralement opposé à celui qu'on nous a présenté, quoi. C'est-à-dire qu'ici, les médias nous ont présenté le postulat de départ en France quand on parle d'Israël-Palestine, c'est il faut défendre Israël. C'est ça le postulat de départ. C'est-à-dire Israël est l'État refuge des Juifs, c'est ça leur postulat. Et donc, il faut protéger Israël coûte que coûte, et ça lui donne, et ça, c'est instrumental. À cause de ce qui a été fait aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, ici, par les Européens, sur le sol européen, et c'est aux Palestiniens de payer ça, et c'est normal pour ceux qui nous parlent, quoi, que ce soit nos gouvernants ou nos médias dominants. C'est comme ça, le postulat de départ est celui-là. C'est que Israël est l'État refuge des Juifs et qu'il faut, le défendre coûte que coûte. C'est lui la victime, quoi qu'il fasse. Et instrumentaliser sans fin, quoi que fasse Israël, toujours présenté comme une victime. Tout ce que fait Israël est une riposte à quelque chose, alors que c'est exactement le contraire, en fait. La vérité n'est pas celle-là. La vérité, du point de vue palestinien, mais du point de vue même de la vérité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Israël si ce n'est un État qui a colonisé un peuple qui était là, autochtone, qui s'appelait les Palestiniens en 1948. Donc l'histoire, elle ne commence pas le 7 octobre, donc c'est ce que je dis dans le livre. Ouais. Elle ne commence absolument pas le 7 octobre, elle commence le 15 mai 1948, quand Israël est proclamé et qu'il n'y a aucun respect de la résolution qui prévoyait le partage de la Palestine. Déjà ça, le partage de la Palestine, ça a été décidé par qui, si ce n'est par les puissances coloniales, la puissance coloniale qui était avant l'Angleterre, avec la France, avec les accords Sykes-Picot, etc. Donc c'est la continuité. Il y a les décolonisations des années 60, où nous, notre pays a été décolonisé, ben, on oubliait la Palestine, et au contraire, on remis une nouvelle forme de colonisation là, et il devait y avoir un partage, soi-disant, entre Arabes et Juifs, il n'y a eu aucun partage. C'est Israël qui grignote tout depuis le départ et qui pratique un nettoyage ethnique depuis chaque jour qui passe. Les Palestiniens n'ont pas eu un seul jour de répit depuis 1948. Et c'est cette histoire-là, de ce point de vue-là, qui est pour moi le seul qui correspond à la vérité, qui est valable en fait. Et ce récit-là du conflit, enfin un conflit, là on a assisté à un génocide, n'a pas été présent, n'est pas présent. Enfin voilà, c'est un, il faut qu'on retourne le narratif. Le narratif doit être retourné. C'est pas possible. Ils veulent nous rendre fous. Ils racontent l'histoire à l'envers en fait. Et c'est d'autant plus à l'envers que, par exemple, j'ai beaucoup d'amis ou de militants ou d'intellectuels que je suis depuis longtemps, qui sont juifs et qui disent, par exemple, Pierre Stamboul de l'UJFP, de l'Union juive française pour la paix, qui dit face à l'antisémitisme, le sionisme est la pire des réponses, étant donné que c'est une théorie de la séparation qui stipule que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni en Israël. Donc, il n'y a rien qui va. Et par exemple, Ronnie Broman, que vous connaissez sûrement, l'ancien président de Médecins Sans Frontières, dit que pour lui, non seulement Israël n'est pas un état de refuge pour les juifs, mais que Israël est l'endroit le plus dangereux pour les juifs et que Israël met en danger les juifs du monde parce qu'à cause de ses actions abominables, épouvantables, des massacres incessants qu'il commet, et au nom des juifs, et ben il met en danger les juifs qui sont ici dans nos rues parce qu'il y a des abrutis qui font cet amalgame entre juifs et l'État d'Israël qui commet un massacre sur les Palestiniens depuis 77 ans maintenant on est. Et donc voilà, donc, c'est pour ça aussi que j'ai écrit à la première personne, parce que je pense que le jeu que j'écris est collectif, c'est pas que le mien, c'est le jeu du point de vue des dominés, des décolonisés, et pas seulement les gens, les Arabes ou les anciens colonisés, c'est tous les gens comme vous, qui voient clairement que l'histoire n'est pas celle qu'on nous raconte, voilà. Et donc re-raconter l'histoire, inverser le récit, et le remettre à l'endroit, nous remettre la tête à l'endroit. Voilà, c'était ça, c'est pour ça que j'ai écrit à la première personne et parce que je raconte aussi clairement mes émotions, ce que j'ai ressenti, parce que plein de gens autour de moi, je pense qu'on a traversé cette année horrible dans une solitude collective, c'est-à-dire chacun tout seul était en train de devenir fou, mais on a tous ressenti les mêmes choses, on était tous à ne plus pouvoir regarder un enfant sans penser aux enfants palestiniens, ne plus pouvoir manger sans penser qu'eux n'avaient rien à manger, ne plus pouvoir se laver sans penser qu'eux ne sont pas pris de douche depuis un an, etc. Et non plus de toi, etc. Donc cette solitude collective, elle est dans mon jeu, quoi.
Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, antisionistes et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, antisionistes et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, antisionistes et en colère.
Voilà, nous sommes revenus dans les studios de Radio Galère, 88.4, à l'écoute de Une heure en Palestine. Vous venez d'écouter Myriam Larribi qui parle de son livre « Sigil l'humanité ». Et vous avez entendu en fond sonore, eh bien, parce que nous étions dans la librairie, un petit enfant qui s'agitait et commentait. C'était fort agréable, même si peut-être à l'écoute, c'est un petit peu dérangeant. Que vous dire, ah oui, vous avez ensuite entendu une captation de la manifestation du 8 mars pour les droits des femmes, une journée de lutte pour nos droits en tant que femmes. Et c'était cette jolie manifestation qui est partie du Vieux-Port jusqu'à la Joliette. Nous sommes femmes, nous sommes fortes, nous sommes fières, antisionistes, anticolonialistes. C'est la nouvelle génération. Alors, des brèves pour continuer. Des informations reçues de Jenine hier matin à l'aube qui nous disait « Les forces d'occupation israéliennes ont tué un jeune Palestinien de la ville de Jenine dans le nord de la Cisjordanie occupée en l'écrasant avec un véhicule militaire alors qu'il conduisait sa moto après avoir rompu son jeûne le 10e jour du Ramadan. Depuis plus de 50 jours, les forces israéliennes prennent d'assaut Jenine » et ont tué plus de 29 Palestiniens, démolissant des dizaines de maisons et dévastant l'infrastructure de la ville dans le cadre des politiques destructrices du gouvernement d'occupation israélien. Les habitants de Jenine sont confrontés à des difficultés économiques sans précédent, avec les forces israéliennes qui ferment les magasins et limitent la circulation, transformant la ville en une version plus petite de Gaza en termes de destruction et de souffrance. Une autre information qui vient de Jenine aussi, c'est l'histoire de ce petit garçon, Ibrahim Abou Ghali, 7 ans, qui a été arrêté aussi à l'aube hier matin dans la maison de son grand-père, à la rue d'Haïfa, à Jenin et qui a été maintenue en détention par l'armée israélienne toute la journée, 7 ans, pour être relâchée le soir, sans vêtements. Voilà, c'est Ibrahim dont vous pouvez retrouver l'entretien, on peut dire l'interview, sur les réseaux sociaux. Et puis un autre message qui est arrivé de Tulkarem, là c'était un peu plus tôt, c'était le 8 mars, et qui nous disait « Les conditions de vie à Tulkarem sont très mauvaises. Au cours de la dernière campagne menée par les forces d'occupation israéliennes, plus de 50 000 personnes ont été déplacées de leur maison dans la ville et dans les camps de Tulkarem et Nour el-Shams. À ce jour, plus de 300 maisons ont été démolies et incendiées et les infrastructures sont totalement détruites, notamment l'eau, l'électricité et l'assainissement. » Pour les déplacer, nous essayons de les aider en les accueillant dans d'autres familles ou dans certaines écoles. Nous pouvons leur fournir un niveau minimum de traitement et les combats, les massacres, les démolitions et les incendies s'étendent de jour en jour. Dans le même temps, l'occupation israélienne a l'intention d'approuver la construction de 1030 nouvelles unités de colonisation dans les villes de Sourbaïr et Jabal Moukaber. Au sud-est de Jérusalem, c'est aussi une manière de clôturer complètement la ceinture qui entoure Jérusalem pour la bloquer et la priver de tout lien avec la Cisjordanie. Quant à l'odieux ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, il a révélé que des préparatifs sont en cours pour créer un département au sein du ministère de la Défense, et ce département sera chargé du déplacement des Palestiniens de Gaza. Il dit « Nous travaillons à la mise en place d'une administration de l'immigration et nous nous y préparons sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense Israël Katz. Si nous expulsons, il utilise plutôt le terme « déplaçons », qui est plus « soft », 5000 personnes par jour, cela prendra un an. La logistique est compliquée car il faut savoir qui ira dans quel pays, a-t-il indiqué, en précisant qu'Israël travaille avec l'administration américaine pour déterminer quel pays accueillera les migrants de Gaza, c'est-à-dire 2,3 millions de personnes. Et le terme de migrants est là aussi un terme bien amusant lorsque l'on devrait plutôt parler de déplacés, de réfugiés, puisque 80% environ, 75 à 80% de la population de Gaza est déjà réfugiée et qu'il le deviendrait une deuxième fois dans le cas où ce plan de Trump-Netanyahou était mis en œuvre. Voilà, une dernière information avant la prochaine pause musicale. C'est Daniela Weiss, la dirigeante du mouvement de colonisation Nahala, un des pires mouvements. Une dame qui prône la destruction de Gaza, qui prône le déplacement de sa population, qui soutient l'expansion des colonies en Cisjordanie et qui parle avec des accents qui nous rappellent une époque que l'on croyait révolue à jamais. Pour rappeler au meurtre et au nettoyage ethnique. Eh bien, cette dame a été présentée comme candidate pour le prix Nobel de la paix. Vous ne rêvez pas. Voilà, on repart pour une petite pause musicale. C'est, si je ne me trompe pas, si mes fiches sont bonnes, l'hymne national palestinien chanté par des enfants de Palestine.
Bonjour de Gaza, bonjour de Gaza la vie. Chaque pays souverain a son propre hymne national qui est diffusé après avoir obtenu son indépendance. Mais l'hymne national palestinien, il a précédé l'indépendance de la Palestine. Thank you.
Oui, c'était les enfants de Gaza qui chantaient Maoutini, l'hymne national palestinien. Donc on en revient à l'actualité, une actualité où Israël continue de violer le cessez-le-feu à Gaza, alors que la crise humanitaire s'aggrave, puisque vous le savez, depuis plusieurs jours, depuis plus d'une semaine maintenant, toute aide humanitaire a été interdite par Netanyahou et son gouvernement. Et depuis 3 jours, c'est l'alimentation en eau, et en particulier l'alimentation de ce qui subsiste de l'usine de traitement des eaux. L'électricité a été supprimée, et donc c'est une dernière manière trouvée, à défaut de bombarder. C'est une manière d'affamer, de priver de médicaments, de priver d'eau potable, et de pousser les Palestiniens à accepter d'être à nouveau déplacés et devenir à nouveau des réfugiés. Mais connaissant l'obstination, la résistance, le soumoud palestinien, nous savons qu'ils ne bougeront pas, et que si l'État d'Israël et son patron, les États-Unis, ce n'est pas l'inverse, ce sont bien les États-Unis qui téléguident cet État colonial au Moyen-Orient, si eux s'obstinent à vouloir déplacer le peuple palestinien, ils ne déplaceront que des corps. Et c'est à nous d'agir pour empêcher que cette sinistre manœuvre se mette en place. Selon l'Observatoire méditerranéen des droits de l'homme, Israël a tué 145 Palestiniens au rythme de 7 personnes tous les 2 jours depuis le cessez-le-feu, tout en utilisant le siège et la famine comme outil de mise à mort lente dans le cadre du crime de génocide dans la bande de Gaza. L'armée d'occupation a continué à commettre des meurtres, que ce soit par des tirs de snipers, des drones quadcoptères ou des attaques de drones, en particulier lorsque les Palestiniens tentent de se rendre dans leur maison, dans la zone tampon, au niveau de la zone tampon, qui se trouve dans la partie nord et est de la bande de Gaza. Quant au gouvernement de Rafah, situé dans la partie sud, c'est celui qui a été le plus visé par les attaques israéliennes depuis le début du cessez-le-feu. On va parler maintenant de Houssam Abou Safia. Vous vous souvenez de ce médecin? C'est lui qui avait été enlevé depuis son hôpital. Alors, selon le bureau des médias des prisonniers, l'avocate Gaïda Kassem de Nazareth, donc c'est une Palestinienne de nationalité israélienne, qui a rendu visite au docteur Houssam Abou Safia, directeur de l'hôpital Kamal Adwan, qui se trouve maintenant à la prison d'Ofer après plus de 70 jours de détention, dont 14 jours dans le tristement célèbre centre de détention Sdeï Taïman. Là, le docteur Abou Safia avait été enlevé par les forces israéliennes en décembre 2024. Et depuis lors, il a subi de graves tortures et de mauvais traitements. Par exemple, il a d'abord été isolé pendant 14 jours, puis placé à l'isolement encore 25 jours supplémentaires à Ofer. Ensuite, il a été placé dans une section qui isole les prisonniers de Gaza des autres détenus palestiniens. Il a subi 13 jours d'interrogatoire intense avec des séances de 8 à 10 heures accompagnées de tortures et d'abus. Avant que le docteur Houssam soit arrêté, son fils a été assassiné à Gaza et a été temporairement enterré près de l'hôpital Kamal Adwan dans une fosse commune. Sa première question lors de la visite de l'avocate était de savoir si son fils avait reçu des funérailles décentes et dignes. Il a aussi été fortement affaibli par la mort de sa maman, 10 jours après son arrestation, car elle avait été particulièrement affectée par l'arrestation de son fils après la mort de son petit-fils. L'avocate a souligné qu'il ne savait pas que son cas avait attiré une telle attention locale au niveau du monde arabe et aussi à l'international. Les prisonniers étant presque totalement isolés à l'intérieur de la prison, ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur ni ce qui se passe à Gaza. À propos des éléments de torture décrits par Abou Safia, il dit « Si nous parlons de Sdeï Taïman, là où il a été détenu les 13 premiers jours, mais où sont détenus de nombreux otages palestiniens enlevés à Gaza depuis le 7 octobre, c'est un abattoir dans tous les sens du terme. La torture, les violations et la famine sont sans précédent. Nous parlons de prisonniers enchaînés depuis 10 mois, de prisonniers aux membres amputés sans soins médicaux, de prisonniers âgés, attachés et les yeux bandés, de prisonniers qui ont perdu plus de 70 kilos. En plus, il y a le froid extrême. Les prisonniers sont enfermés dans des cages ouvertes, exposés au vent et à la pluie, obligés de s'asseoir par terre en permanence, interdits de parler entre eux, de prier ou de lire le Coran. Elle a poursuivi, en plus de torture physique, il y a aussi la torture psychologique, car les agents des services de renseignement disent aux détenus que toute leur famille est devenue des martyrs, donc a été tuée dans les bombardements. Les autorités d'occupation ont tenté d'inculper le docteur Hossam Boussafir, mais après 45 jours d'interrogatoire et de torture, elles n'ont pas réussi à trouver la moindre preuve. Son dossier a donc été transformé en statut de combattant illégal, le privant de tous ses droits légaux, y compris la représentation et les poursuites formelles, c'est-à-dire qu'il ne sera pas présenté devant un tribunal, et autorisant une détention indéfinie. Mais malgré ses souffrances, Hossam Boussafir reste convaincu, fort et déterminé, et comme beaucoup d'autres prisonniers palestiniens, ou plutôt, utilisons le terme adéquat, le terme d'otage, car le docteur Boussafir a passé son temps dans son hôpital à soigner des enfants, et il a été enlevé. Il n'est accusé de rien du tout, on lui met une accusation de combattant illégal. À aucun moment il n'a porté des armes. Est-ce que être médecin dans un hôpital et s'occuper d'enfants, c'est être un combattant et est-ce illégal? En tout cas, c'est l'accusation qui est portée contre lui. Mais pour nous, lui, comme tous les Palestiniens enlevés à Gaza depuis le 7 octobre, sont des otages des génocidaires israéliens. Et on continue toujours sur un rapport sur la torture et les abus israéliens dans les camps de détention. Il faut savoir que depuis le 7 octobre, 62 détenus ont trouvé la mort, ont été tués sous la torture ou par manque de soins dans les prisons coloniales israéliennes. 62 morts en 15 mois. C'est absolument énorme, en sachant que ça porte sur 10 000 personnes. Imaginez juste ce que cela peut vouloir dire, en sachant que ces personnes ont été enlevées, pour la plupart, en bonne santé, sans problème particulier. Alors, quels sont les traitements qui sont réservés aux Palestiniens sous forme de torture ou d'humiliation? Par exemple, uriner sur les prisonniers. Un ancien détenu a raconté comment les soldats israéliens urinaient dans un récipient et le versaient sur le visage et les corps des prisonniers palestiniens en guise d'humiliation. C'était l'une des pires formes de dégradation que nous ayons endurées, dit-il. Les prisonniers étaient aussi menottés, pieds et mains, et battus avec des bouteilles d'eau glacée et des bouteilles remplies d'olives. Ces coups étaient régulièrement infligés avant que les détenus ne soient transférés dans des établissements pénitentiaires officiels. Donc là, ça se passe dans la prison de Sdeïman, avant qu'ils soient transférés dans les prisons officielles, disons. La nudité forcée dans un hiver rigoureux, on l'a évoqué tout à l'heure. Un autre détenu, âgé de 63 ans, a raconté comment il avait été dépouillé de ses vêtements malgré le froid hivernal. Ils nous ont dépouillé de tous nos vêtements, même de nos sous-vêtements, et nous ont donné seulement des vêtements légers. Les soldats nous grondaient et nous battaient au moindre mouvement, au moindre mot, a-t-il déclaré. Les prisonniers étaient contraints de se tenir debout sur un pied pendant des heures en guise de punition. Il y a aussi les stations assises prolongées et l'incontinence forcée, c'est-à-dire qu'on vous laisse assis pendant des heures et des heures en refusant que vous puissiez vous lever et à accéder aux toilettes. Et donc, les prisonniers étaient amenés à uriner sur eux et à s'auto-humilier, si on peut dire. Il y a aussi cette chose subtile en plein hiver que les douches glacées. Les prisonniers étaient obligés de prendre des douches glacées tous les deux jours, quelle que soit la rigueur de l'hiver. Si les soldats découvraient qu'un détenu ne s'était pas lavé, ils le punissaient et le torturaient immédiatement. Et puis, cette chose incroyable qui est la simulation d'exécution, qui est on enterrait vivants des prisonniers, des otages. On les mettait dans un linceul, sous terre, avec un petit tuyau. Et puis, un tuyau qui était fermé, et quand on voyait, parce qu'à l'aide d'une caméra qui était aussi introduite, eh bien, lorsqu'on voyait qu'ils suffoquaient, à ce moment-là, on débouchait le tuyau pour laisser passer un peu d'air. Vous pouvez imaginer le stress, l'angoisse et la torture psychologique que cela représente. Quant au neveu du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, son neveu Moussaab Haniyeh, il a été torturé à mort dans la prison d'Ofer. Ses blessures non soignées se sont infestées de vers. Il souffrait d'incontinence grave à raison des tortures qu'il avait subies. Les forces israéliennes ne lui ont fourni aucun soin médical, ce qui l'a conduit à la mort. Et pour terminer, les négligences médicales et le refus délibéré de traitement, ce sont des détenus relativement âgés, on va dire, de plus de 60 ans, qui n'étaient absolument pas des combattants, parce qu'à 60 ans en Palestine, il n'y a plus personne qui peut être qualifié de combattant, et qui étaient diabétiques ou qui avaient de l'hypertension, des problèmes de prostate, par exemple, et qui n'ont reçu aucun traitement, mais qui étaient régulièrement battus. Et réanimé avec de l'eau froide, puis battu à nouveau. Et cela a conduit, comme le disent les proches des prisonniers récemment libérés, à des troubles psychologiques permanents, en espérant qu'ils puissent avoir des soins. Mais on se demande bien, vu la situation dans la bande de Gaza, quels soins pourraient leur être apportés, parce qu'il y a un nombre énorme de stress graves stress post-traumatiques. Et les familles de détenus témoignent en ce sens. Voilà, on termine sur ce triste chapitre et on fait une pause musicale. Cette fois-ci, vous allez entendre Les pierres de Gaza, le silence des mosquées.
C'est l'histoire d'une guerre, trop de soldats qui courent, des conflits tous les jours. C'est l'histoire d'une terre, des maisons anéanties pour venger tous leurs morts. Des tortures pour les familles, Allah connaît les torts. Une terre sans partage, une paix jamais vue. Ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Jahidu bil iman, جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن جاهدوا بالإيمان جاهدوا بالصلاة جاهدوا بالدعاء وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن Avez-vous souvenir de ce fameux matin où un homme a tué des fidèles en prière? Des fidèles morts devant Dieu qui priaient pour être heureux. Peut-on toujours espérer voir la paix s'installer? Une terre sans partage, une paix jamais vue. Ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites. Des pierres de l'intifada.
On revient sur des réactions de par le monde. Et par exemple, la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, qui a condamné les coupures d'électricité imposées par Israël à Gaza, soulignant le manque d'eau potable qui en résulte en raison du non-fonctionnement des stations de dessalement. Madame Albanese a également déploré que la communauté internationale n'ait pas imposé de sanctions ou d'embargo sur les armes, ce qui, selon elle, contribue à la perpétration d'un génocide qui aurait pu être évité. L'ONU alerte sur ce risque de génocide après la coupure par l'entité sioniste de l'approvisionnement en électricité à Gaza. Par exemple, le colonel américain à la retraite Douglas MacGregor, qui a condamné la décision du Premier ministre Netanyahou de bloquer l'acheminement de ressources vitales vers Gaza pendant le Ramadan, la qualifiant d'initiative extrêmement dangereuse qui pourrait pousser les nations arabes à entrer en guerre contre Israël. Tom Fletcher, le nouveau chef humanitaire des Nations Unies, qui lui a déclaré dans un entretien avec Al Jazeera en anglais qu'il n'avait jamais vu de dévastation à l'échelle de ce dont il a été témoin à Gaza. Il a décrit comment le personnel de l'ONU qui était là depuis le début de la guerre devait compter sur le GPS pour localiser leur maison car il n'y avait plus de repères par lesquels se guider. Malgré la destruction totale, les Palestiniens trouvent le moyen de survivre, ajoute-t-il. Ils retournent dans les décombres de leur maison, éliminent les munitions non explosées et les cadavres et dressent des tentes sur les ruines pour reconstruire leur vie. Quant au porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, M. Dujarric, il déclare « Nous sommes profondément préoccupés par le fait qu'Israël continue de suspendre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et la situation actuelle dans la bande a des répercussions sur la région ». Pour le commissaire général de l'UNRWA, Israël s'efforce de réduire au silence des organisations qui soutiennent les Palestiniens. Israël refuse de faciliter la circulation des personnes par le point de passage de Kerem Shalom. 50 000 enfants palestiniens sont scolarisés dans nos écoles et nous fournissons des services de santé à 5 000 personnes en Cisjordanie. Nous avons besoin d'une aide supplémentaire urgente pour que l'agence puisse continuer à fonctionner. L'effondrement de l'agence créera une situation catastrophique dans les territoires palestiniens occupés, ainsi qu'en Jordanie, en Syrie et au Liban. L'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a affirmé que l'agression en cours dans le nord de la Cisjordanie occupée provoque le plus grand déplacement de la population depuis 1967 dans cette région. L'opération de grande envergure menée par les forces israéliennes dans le nord de la Cisjordanie provoque le plus grand déplacement de population, a écrit l'UNRWA dans un message sur les réseaux sociaux. L'UNRWA estime dans ce contexte qu'au moins 40 000 Palestiniens ont été contraints de quitter leur foyer. L'armée de l'occupation mène depuis plusieurs semaines des agressions contre les Palestiniens dans le nord de Cisjordanie occupée, notamment Tul Karem et Jenin, nous l'avons vu précédemment, entraînant des dizaines de martyrs et des blessés et en faisant craindre un nouveau génocide similaire à celui perpétré dans la bande de Gaza où plus de 48 000 personnes ont trouvé la mort, en majorité des femmes et des enfants. Et pendant ce temps, aux USA, eh bien, les forces de sécurité ont arrêté Mahmoud Khalil, le leader des manifestations pro-palestiniennes, à l'université de Columbia contre le génocide à Gaza. Les autorités israéliennes envisagent de lui retirer son permis de séjour. C'est même pas un permis de séjour, c'est une carte verte de résident permanent, et de l'expulser. Depuis lors, un juge a bloqué l'ordre d'expulsion et de nombreuses manifestations ont lieu aux USA en soutien à Mahmoud Khalil. Les citoyens américains qui manifestent ont bien compris que c'était le début d'une ère nouvelle pour le peuple américain et que s'ils laissaient attaquer comme cela se fait actuellement avec la suppression de centaines de milliers de dollars pour l'Université de Columbia, c'était la destruction totale du système, de la possibilité de s'éduquer, de s'ouvrir au monde pour les étudiants des États-Unis. Rappelons dans le cas de Mahmoud Khalil que son épouse enceinte de 8 mois et citoyenne des USA a elle aussi été menée d'arrestation lorsque la police s'est rendue à son domicile pour arrêter son mari. Et dans les dernières minutes qui nous restent, eh bien, nous allons parler un petit peu de nos actions à Marseille. Eh bien, comme le 30 janvier, à l'appel de nombreuses organisations marseillaises, nous nous sommes retrouvés devant les bureaux de la Commission européenne à Marseille pour dénoncer la collaboration honteuse de celle-ci avec Israël. Rappelons que le 24 février, la représentante de la Commission européenne, de l'Union européenne pour la politique étrangère, a reçu son homologue, on peut dire un ministre israélien, et l'accord de partenariat Union européenne-Israël a été renouvelé sans qu'aucune sanction ne soit imposée à l'État d'Israël, qui pourtant viole outrageusement les droits humains, comme cela devrait se faire en conformité avec l'article 2 de cet accord qui soumet l'application de l'accord au respect des droits humains. Le refus de sanctionner le génocide à Gaza, mais aussi le nettoyage ethnique en Cisjordanie et à Jérusalem, est inacceptable, d'autant que la dite commission se prétend défendre le droit international lorsqu'il s'agit de dénoncer l'agression russe contre l'Ukraine. Depuis plus de 20 ans, le Parlement européen a voté l'application de l'article 2 de l'accord de partenariat UE-Israël et rien n'est appliqué, malgré les appels de centaines d'organisations européennes. Nous continuerons à dénoncer cette honteuse collaboration avec plus de 700 entreprises européennes qui participent au soutien de la colonisation, de l'apartheid et du génocide, en finançant, armant et collaborant dans les domaines universitaires, militaires, scientifiques, financiers. Nous retournerons très prochainement devant la Commission européenne et nous amplifierons nos actions de boycott, en particulier Carrefour, la BNP, AXA, Reebok, qui est maintenant le nouveau partenaire, le nouveau sponsor de l'équipe israélienne de football, mais aussi Coca-Cola, HP, McDonald's, Siemens, ainsi que les marques israéliennes Teva, Adiclaim, Mehadrin, Ahava, Keter, des boîtes en plastique, et SodaStream, la machine qui, avec du gaz, fait pétiller et exploser l'eau plate. Enfin, une pétition à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, de la Fédération internationale des droits humains et de l'association France-Palestine Solidarité. Vous pouvez la signer sur la page Facebook du collectif Palestine en résistance, sur la page de l'association France-Palestine Solidarité ou de la Fédération internationale des droits de l'homme, et aussi sur la page de Marseille-Gaza-Palestine, du collectif Marseille-Gaza-Palestine. Alors, cette pétition est à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, donc. Le 18 septembre 2024, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par 124 voix, dont celle de la France, une résolution de la plus haute importance concernant l'occupation et la colonisation israélienne de la Palestine. Conformément à l'avis de la Cour internationale de justice, la résolution affirme que l'occupation du territoire palestinien par Israël est illégale et rappelle que la colonisation est un crime de guerre et qu'Israël doit y mettre fin dans un délai d'un an, soit le 18 septembre 2025 au plus tard. Elle réaffirme le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, y compris son droit à un État indépendant et souverain, sur l'intégralité du territoire palestinien occupé, Cisjordanie, dont Jérusalem-Est et bande de Gaza. Au-delà des obligations à caractère général qui incombent aux États, ils doivent également respecter des prescriptions précises, à savoir d'enjoindre aux acteurs économiques, financiers, d'empêcher toute activité et investissement, toute relation économique ou commerciale avec Israël qui serait de nature à renforcer sa présence illicite dans le territoire palestinien occupé, d'interdire l'importation de tout produit issu des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, d'interdire toute exportation d'armes ou de matériel connexe en direction d'Israël, d'enjoindre aux colons franco-israéliens de quitter leur résidence dans les colonies, de prendre des mesures contre les militaires franco-israéliens qui interviennent dans le territoire palestinien occupé. Plus de 5 mois après le vote de cette résolution, la France n'a toujours pas pris la moindre mesure pour se conformer à cette résolution. Nous demandons au gouvernement français de prendre des mesures visant les acteurs français responsables de ces agissements illicites pour empêcher tout ce qui permet à l'occupation et à la colonisation de perdurer. Ces acteurs peuvent être des citoyens, des entreprises, des institutions publiques, dont les collectivités locales ou des organisations privées. C'est pour cela que nous sommes aussi en train d'écrire à la mairie de Marseille pour lui demander de supprimer tout partenariat totalement illégal signé par Jean-Claude Gaudin et le maire de l'époque de Jérusalem, qui crée un partenariat totalement en violation du droit international entre notre ville et la ville de Jérusalem occupée, annexée illégalement. Le courrier est parti à Benoît Payan et on attend sa réponse et on lui demande aussi au passage de jumeler Marseille avec Gaza. Voilà, il est 53, on a peut-être le temps de faire une pause musicale de 2 minutes et on terminera par un rappel des prochaines activités. À tout de suite.
أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه
Voilà, c'était Mohamed Tarek qui enchaînait un medley de différents chants palestiniens. Alors, il y a beaucoup de choses dont j'aurais voulu vous parler, mais le temps imparti ne nous le permet pas. Mais c'est en particulier un article qui indique que des dizaines de prisonniers israéliens ont été tués par des tirs israéliens à Gaza. C'est un rapport publié par le New York Times et qui dit entre autres que des rapports ont été établis, qui citent deux responsables israéliens qui ont déclaré que quelques prisonniers ont été tués dans les premiers jours de la guerre avant qu'il ne soit impossible de conclure une trêve. Mais de nombreuses autres personnes sont mortes depuis que le bref premier cessez-le-feu s'est effondré en novembre 2023 et que les combats ont continué dans une guerre qui a tué des dizaines de milliers de Palestiniens, note le rapport. Voilà, c'est beaucoup de choses. Vous pouvez le trouver sur le New York Times. Vous pouvez aussi le trouver sur Palestine Chronicle. Et il y a une version en français accessible à tout le monde. Il y a beaucoup d'autres choses qui devraient être dites. Mais mes collègues, la semaine prochaine, vous les diront. Je termine donc avec les prochaines activités. Vous le savez, tous les dimanches, 14h30, rendez-vous à la Porte d'Aix pour la manifestation hebdomadaire depuis le mois d'octobre 2023. Et ce samedi en particulier, à partir de 15h30, donc c'est Salah Amouri et Soua Béchara qui viendront parler des prisons israéliennes, de la résistance des peuples libanais et palestiniens. Les bénéfices iront au Secours populaire libanais et il faut absolument vous inscrire sur la page Solidarité Liban Marseille, en un seul mot, solidaritelibanmarseille@proton.me. Et vous recevrez par mail l'adresse et confirmation de l'heure, 15h30. Toujours le 15 mars à 19h30, au Gyptis à la Belle de Mai. C'est la projection de Northerland, le documentaire oscarisé aux États-Unis. La séance sera suivie d'un débat avec la salle et c'est d'autant plus important de voir ce film. Beaucoup de spectateurs qui sont des, ou même de militants qui pensaient connaître la situation ont découvert énormément de choses en voyant ce film. Et ce matin, c'est une politique qui s'accentue depuis que le film a reçu les Oscars en particulier. Mais ce matin, un groupe de colons masqués a attaqué le village de El Rebit al-Nabi dans la zone de Massafer Yatta en agressant les Palestiniens avec du gaz poivré et en détruisant les enclos à moutons. Et vous le savez, toutes ces agressions se font avec la bénédiction et la protection de l'armée israélienne. Et puis la semaine prochaine, donc vendredi prochain, le 21 mars, à Mon Café sur la Plaine, à partir de 18h, un repas palestinien. Et puis à partir de 20h, un concert. Les bénéfices de la soirée iront à une famille de Gaza. Voilà, il est quasiment l'heure. Je vous laisse avec le générique et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre voyage pour une heure en Palestine. Bintisha.